de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Blinken admet que trop de Palestiniens ont été tués à Gaza ». Le secrétaire général de l'OTAN promet de poursuivre son soutien militaire à l'Ukraine. Le commandant du TNI, Yudo Margono, a inauguré le monument de l'équipement de défense de TNI-AU à Madiun. L'Allemagne souligne son soutien à une solution à deux États pour la Palestine et Israël. La ministre de la Banque de Floride a déclaré que le niveau de chômage ouvert en Indonésie avait diminué. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné l'importance de protéger les civils dans le conflit de Gaza, affirmant que trop de Palestiniens avaient été tués lors des attaques israéliennes sur l'enclave palestinienne. Cité samedi depuis Ankara à Jakarta, il a déclaré que les États-Unis voulaient faire tout leur possible pour éviter que des personnes soient blessées et maximiser l'assistance qui leur est apportée. Blinken a également déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire pour protéger les civils et garantir que l'aide humanitaire leur parvienne. Cela comprenait une pause humanitaire. Il a déclaré que cette décision pourrait sauver des vies et mettre à la disposition des Palestiniens une aide indispensable. Le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou abrégé en OTAN, Jens Stoltenberg, a promis un soutien militaire continu à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. C'était samedi à Ankara, à Jakarta, il a déclaré que le soutien militaire continu à l'Ukraine était dans l'intérêt de l'OTAN. Jeudi, Stoltenberg a demandé à l'OTAN de ne pas interrompre son soutien militaire à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Il a également apprécié que l'Allemagne soit le deuxième plus grand soutien de l'Ukraine après les États-Unis en termes de véhicules de combat d'infanterie, de chars de combat et de systèmes anti-aériens. Selon lui, cette contribution aide l'Ukraine à maintenir sa liberté en aidant l'Europe à rester en sécurité. Le commandant de la TNI ou l'armée nationale indonésienne, l'amiral TNI Yudo Margono, a inauguré samedi un monument dédié au principal système d'armes ou alutsista de TNI-AU à la retraite dans la région de Madiun à Jaffa de l'Est. C'était d'Antara à Jakarta lors de l'inauguration du monument de l'équipement de défense en forme d'avion de combat. Le commandant du TNI a déclaré que le musée était une preuve de l'histoire de l'équipement de défense de l'armée de l'air indonésienne qui doit être respectée avec fierté. Le monument de l'équipement de défense qui a été inauguré était l'avion HAWK-200 portant le numéro de queue TT-0229. Le monument de l'avion AUK-200 était une subvention de l'armée de l'air indonésienne qui était auparavant exploitée par l'escadron aérien en Supadio Airport Pontianak. L'Allemagne réitère son ferme soutien à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies et au milieu de la guerre en cours d'Israël à Gaza. C'était samedi depuis Antara à Jakarta, la porte-parole adjointe du ministère allemand des Affaires étrangères, Catherine Deschauer, a déclaré qu'une solution à deux États est la seule voie prometteuse pour créer une vie paisible pour les Israéliens et les Palestiniens. Auparavant, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait appelé les pays du Golfe arabe à travailler ensemble pour parvenir à une solution à deux États. Baerbock a souligné que l'opportunité historique pour Israël de vivre en paix avec ses voisins arabes ne doit pas être détruite. Il a également appelé à davantage d'efforts diplomatiques pour aider à résoudre la crise à Gaza. Même les efforts visant à libérer les personnes détenues par le Hamas, à fournir un accès humanitaire à Gaza et à empêcher l'escalade du conflit régional pourraient être couronnés de succès si les États du Golfe arabe travaillent ensemble. Baerbock a également exhorté Israël à redoubler d'efforts pour protéger la vie des civils à Gaza. La ministre de la Main-d'œuvre, Ida Fauzia, samedi à Jakarta, a déclaré que le secteur de l'emploi s'améliorait parce que le taux de chômage ouvert en Indonésie en août 2023 a chuté de 0,54% à 5,32% par rapport à l'année dernière. Selon lui, le monde du travail continue de connaître une tendance de changement et de transformation. L'une d'elles est l'emploi qui est de plus en plus concentré dans les zones urbaines. Il a déclaré qu'il s'agit d'une tendance intéressante qui reflète des changements drastiques dans la structure de l'emploi. Il a ajouté que la transformation de l'emploi se produit également dans les entreprises secondaires et tertiaires. Cela montre une indication que l'économie indonésienne se dirige vers des secteurs plus avancés et innovants. En dehors de cela, le niveau d'éducation de la main-d'œuvre a connu des changements significatifs. Selon Ida, cela montre que l'Indonésie dispose d'une main-d'œuvre plus qualifiée et prête à rivaliser sur le marché mondial. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « MKMK a imposé des sanctions pour la révocation du juge en chef de MK ». Le conseil honoraire de la Cour constitutionnelle, ou en indonésien abrégé en MKMK, a imposé la sanction de révocation du poste du juge en chef de la Cour constitutionnelle, ou MK, à Anwar Usman, car il a été prouvé qu'il avait commis de graves violations du code d'éthique et du comportement des juges constitutionnels. Cette décision a été lue mardi par le président du MKMK, Jimli Ashidiki, dans sa décision au bâtiment MK de la République d'Indonésie. Jimli a déclaré qu'il a été prouvé qu'Anwar Usman avait violé le Sabda Karsa Utama, à savoir le principe d'impartialité, le principe d'intégrité, le principe de compétence et d'égalité, le principe d'indépendance et le principe de pertinence et de politesse. Cette violation est liée à la décision de la Cour constitutionnelle d'accéder à la demande de limite d'âge minimum pour les candidats à la présidence et à la vice-présidence. La décision du député, alors dirigé par Anwar Usman, a suscité des protestations sous la forme de rapports de nombreux partis, car Anwar Usman était considéré comme ayant une relation partielle avec Gibran Rakabuming Raka, qui se présentait comme l'un des candidats à la vice-présidence des élections générales de 2024. En dehors de cela, Jimli a souligné qu'Anwar Usman n'a pas le droit de nommer ou d'être nommé chef de la Cour constitutionnelle jusqu'à la fin de son mandat de juge constitutionnel. En outre, Anwar n'est pas non plus autorisé à être impliqué ou à s'impliquer dans l'examen du prochain cas de litige sur les résultats des élections générales. Outre les sanctions contre Anwar Usman, le MKMK a également imposé un avertissement verbal collectif à 6 juges constitutionnels, car il a été prouvé qu'ils avaient collectivement violé le code d'éthique et de comportement des juges constitutionnels. En outre, Jimli a expliqué que le conseil honoraire a conclu qu'il avait été prouvé conjointement que les juges signalés étaient incapables de protéger des informations confidentielles ou des informations lors des réunions de délibération à huis clos. En dehors de cela, a-t-il ajouté, il a également été conclu que les juges signalés ont collectivement permis que la pratique de violation du code éthique et de comportement des juges constitutionnels se produisent sans sérieux, en se rappelant entre les juges, y compris les dirigeants. Pendant ce temps, Anwar Usman, dans un communiqué de presse prononcé mercredi au bâtiment de la Cour constitutionnelle, a déclaré qu'il avait le sentiment d'avoir été calomnié de manière malveillante concernant le traitement de l'affaire concernant l'âge minimum requis pour le candidat à la présidence et à la vice-présidence. Selon lui, il a admis qu'il ne se sacrifierait pas ni sa dignité et son honneur à la fin de son mandat de juge pour réussir une certaine paire de candidats. D'un autre côté, Anwar s'est rendu compte que la question de la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle, à la vice-présidentielle, avait un contenu politique très fort. Cependant, en tant que juge constitutionnel, il a reconnu qu'il respectait toujours les principes et dispositions de la loi applicables. Le poste de juge en chef de la Cour constitutionnelle est actuellement temporairement dirigé par Suhartoyo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu jeudi 9 novembre lors d'une réunion plénière à huis clos des juges avec un ordre du jour consensuel. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 novembre. On commence par le 12 novembre 1964, la Journée nationale de la santé a été célébrée pour la première fois. La Journée nationale de la santé est célébrée chaque 12 novembre. Cette journée a été créée pour sensibiliser le public à continuer de maintenir la santé. La Journée nationale de la santé a été célébrée pour la première fois le 12 novembre 1964 pour commémorer le succès de l'éradication du paludisme. L'origine de cette journée a commencé dans les années 1950, lorsque de nombreux Indonésiens souffraient de paludisme. Des centaines de milliers de personnes sont mortes de cette maladie. Le gouvernement tente également d'éradiquer le paludisme. Cette date a ensuite été commémorée comme la première journée nationale de la santé le 12 novembre 1964. Ceci est considéré comme le point de départ de la collaboration de toutes les composantes de la nation dans le développement sanitaire en Indonésie. Le 12 novembre 1999, le tremblement de terre a duisé Turquie. Le 12 novembre 1999, à Duisan, Turquie, un tremblement de terre s'est produit à 17h57 heure locale, avec une magnitude de 7,2. Ce tremblement de terre a causé des dégâts et au moins 845 morts à Duisan. L'épicentre se trouvait à environ 5 km, 62 milles, à l'est du tremblement de terre d'Izmit en 1999, qui a également causé des dégâts importants. Le deuxième tremblement de terre s'est produit à l'Anatolie du Nord. Le 12 novembre 2010, les Jeux asiatiques de 2010 ont commencé. Les Jeux asiatiques de 2010, également connus sous le nom de 16e Jeux asiatiques, étaient un événement multisport organisé à Guangzhou, en République populaire de Chine, du 12 au 27 novembre 2010. Guangzhou était la 12e ville chinoise à accueillir les Jeux olympiques après Pékin en 1990. Au total, 9704 athlètes issus de 45 comités nationaux olympiques ont participé à 476 épreuves dans 42 sports et disciplines. Le décompte final des médailles a été mené par la Chine avec 199 médailles d'or, suivies par la Corée du Sud en 12e place et le Japon en 3e place. Les cérémonies d'ouverture et de clôture se sont déroulées le long de la rivière des Perles sur l'île de Haixinsha et c'était la première fois dans l'histoire que la cérémonie d'ouverture d'un événement sportif majeur n'avait pas lieu dans l'intérieur d'un stade. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Sebentar selama ini kau Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulé COI renforce sa synergie avec la France à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Comité Olympique Indonésien, ou COI, renforce la synergie et la diplomatie sportive internationale avec la France à la suite des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le cadre de cette synergie, le président du COI, Raja Sabta Oktohari, a tenu lundi une réunion avec l'ambassadeur de France en Indonésie, Fabien Laurent Robert Panon. Au cours de la réunion, outre les discussions sur les plans de synergie et de diplomatie sportive, le président du COI et l'ambassadeur de France ont également discuté des développements sportifs et des préparatifs pour que Paris accueille l'événement sportif quadriennal le plus prestigieux au monde. Lors de la réunion, le président du COI, Raja Sabta Oktohari, était présent accompagné du président général adjoint Ismail Ning, du comité exécutif Hari Warganegara et Josephine Tampubolon, du secrétaire général adjoint du CNO indonésien Danny Loy et des représentants du sport, à savoir le président du PB, l'Association indonésienne de natation Anindya Bakri, trésorier de l'Association indonésienne de tir à l'arc PB-PBB Irwadi Hanafi et secrétaire général du conseil exécutif indonésien de taekwondo général de brigade Robert Dona. Pendant ce temps, l'ambassadeur de France en Indonésie, Fabien, a apprécié la présence de COI et a estimé que la France et l'Indonésie entretiennent des relations diplomatiques solides qui ont le potentiel de se développer à l'avenir. L'ambassadeur Fabien a également déclaré que dans les discussions sportives, les deux parties connaissaient les priorités de chacun et sur quoi se concentrer pour le sport indonésien. En outre, bien sûr, chaque partie peut voir des opportunités de coopération plus poussées et le sport est une chose importante. Car, selon l'ambassadeur Fabien, la France est disposée à s'impliquer dans le développement de la préparation des fédérations intersports. Paris 2024 sera la 33e édition des Jeux Olympiques depuis l'introduction des Jeux Olympiques modernes en 1896. C'est la troisième fois que le pays doté de l'emblématique Tour Eiffel accueille les Jeux Olympiques après ceux de 1900 et 1924. L'équipe indonésienne a jusqu'à présent obtenu 4 billets pour les Jeux Olympiques de Paris dans les sports de tir à l'arc, 2 billets, des gymnastiques en billets et d'escalade en billets. En outre, l'équipe rouge et blanc a encore la possibilité d'ajouter des représentants qualifiés car les qualifications pour les sports pratiqués aux Jeux Olympiques auront encore lieu jusqu'au milieu de l'année prochaine. Voilà mon Indonésie.
Sadar ku telah sendiri. segampang itu ku menemukan sosok seperti diri.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les auditeurs de Voice of Indonesia, Surabaya possède de nombreuses histoires historiques et attractions touristiques historiques liées à la résistance de la communauté à l'expulsion des envahisseurs, dont le fort de Kedung Choe, situé sur Jalan Kedung Choe, village de Kedung Choe, district de Bulak, Surabaya. Le nom original du fort, qui est situé sur une superficie de 71 876 m², est Kusbatrich Kedung Choe, mais il est plus connu sous le nom de fort Kedung Choe. Ce fort a été construit pendant la période coloniale néerlandaise vers 1915 comme lieu de défense néerlandaise dans la zone côtière et dans le droit de Madura. Après avoir fait l'objet d'un processus d'observation d'environ 5 ans, le 6 mai 2020, le fort Choe, qui était également un témoin silencieux des événements du 10 novembre 1945, a été désigné bâtiment de patrimoine culturel. Ce bâtiment historique des Indes néerlandaises, situé non loin du péage de Pont Suramadu, était autrefois un lieu de défense pour les Néerlandais ainsi qu'un lieu de stockage pour les balles et les gros canons. C'est pourquoi les habitants l'appellent un entrepôt de balles, car ce port était un lieu de stockage de balles pendant la période coloniale. Lors de la bataille du 10 novembre 1945, ce fort servit de base de défense de l'armée populaire de sécurité. Dans le fort de Kedung Choe, qui mesure environ 600 mètres de long et a une largeur moyenne d'environ 10 mètres, des casernes et un bâtiment ressemblant à une cuisine ont également été découverts. Chers auditeurs, en plus d'offrir une valeur historique, le fort de Kedung Choe offre également une vue exotique sur le pont de Suramadu. Si le temps est clair, les touristes peuvent également profiter du coucher de soleil à l'après-midi. L'authentique bâtiment du fort convient parfaitement comme spot photo sur le thème vintage. De plus, les plantes et les fleurs qui poussent en abondance autour du fort de Kedung Choe ajoutent à l'impression naturelle. Si vous visitez le fort de Kedung Choe, vous aurez également droit de belles vues sur le détroit de Madura et la plage de Nambangan. Lorsque vous entrez dans la zone du fort de Kedung Choe, vous ressentirez une atmosphère forestière car il y a des arbres autour. La combinaison de bâtiments historiques et de magnifiques paysages naturels est vraiment intéressante à visiter. Chers auditeurs, jusqu'à présent, le fort de Kedung Choe, il a 108 ans. C'est toujours solide, même si certaines parties commencent à être endommagées et de nombreuses plantes sauvages recouvrent plusieurs zones de ce fort. Par conséquent, en guise de gratitude et de remerciement aux combattants morts en défendant l'indépendance en combattant ici, nous devons continuer à maintenir l'existence du fort de Kedung Choe. Le fort, qui servit à l'origine de base de défense, a aujourd'hui changé de fonction pour devenir un lieu touristique historique unique.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Le championnat du monde aquabike jet ski ». Chers auditeurs, l'Indonésie accueille l'événement international de course nautique Aquabike Jet Ski World Championships sur le lac Toba du 22 au 26 novembre 2023. Il s'agit du deuxième championnat du monde de course nautique à se dérouler sur le lac Toba après le championnat du monde F1 Powerboat qui s'est tenu en février dernier. L'événement du championnat du monde Aquabike Jet Ski 2023 se déroulera dans 4 districts autour du lac Toba, à savoir la région de Karo, région de Dairi, région de Samosir et région de Toba. L'Union internationale mythonautique, ou abrégée en UIM, a procédé aux démarches d'homologation et les 4 régions ont été déclarées dignes d'accueillir cette course. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, espère que cet événement pourra montrer au monde la beauté du lac Toba. En dehors de cela, selon lui, la présence de cet événement constitue un soutien promotionnel infini pour l'économie indonésienne, en particulier pour la communauté autour de la région du lac Toba. Chers auditeurs, l'événement du championnat du monde Aquabike Jet Ski aura lieu régulièrement chaque année en Indonésie jusqu'en 2027. Grâce à cet événement, selon Sandiaga Uno, les bénéfices obtenus devraient atteindre 60 à 70% de plus que lors de la tenue de F1 Powerboat sur le lac Toba. Pendant ce temps, Maya Watono, directrice des programmes de marketing et de tourisme chez PT Aviasi Wisata Indonesia, ou InJourney, a déclaré que c'était la première fois que l'Indonésie accueillait le championnat du monde de jet ski de l'histoire. De cette activité, il est prévu de pouvoir faire bouger les rouages de l'économie pour un montant de 2 000 milliards de roupias. Chers auditeurs, plus tard, ce seront 128 cavaliers internationaux qui concurreront sur le lac Toba. Durant 5 jours, la compétition sera divisée en deux catégories, à savoir le championnat du monde d'endurance et le championnat du monde circuit. La catégorie endurance s'est déroulée du 1er au 3e jour dans les régions de Karo, Dairi et Samosir. Cette catégorie se déroulera sur un circuit fermé de 3 km avec un temps maximum d'une heure. Pendant ce temps, la catégorie circuit se déroulera les 4e et 5e jours à Balige, Toba.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, mendaki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vous donne une chanson de Naura Ayu. Cette chanteuse, dont le nom complet est Adila Rafa Naura Ayu, a sorti son dernier single 20 octobre dernier. La chanson s'intitule « Pemilik Rindu ». Cette chanson présente une musique élégante et douce avec une touche d'ambiance Disney amusante. De plus, si vous écoutez bien les paroles, vous vous sentez connecté parce que tout le monde a dû ressentir un sentiment de nostalgie. Qu'il s'agisse du désir de quelqu'un qui est parti, qui n'a jamais été rencontré ou qui est loin de notre vue, cette chanson rappellera ce sentiment aux auditeurs. En fait, la chanson « Pemilik Rindu » est stockée dans la banque des chansons de Naura Ayu depuis longtemps, depuis 2021. Cette chanson a été créée par Ify Arissa, qui est également la directrice vocale. Bon, chers auditeurs, voici Naura Ayu dont le titre est « Pemilik Rindu ». Bonne écoute!
Sejauh mata yang kian memandang, menang.
Voice of Indonesia.
Berharap kau tetap ada.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.